Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, le monde végétal est beaucoup moins paisible qu'il n'y paraît. Pour survivre, c'est parfois la guerre et certaines plantes ont développé des stratagèmes de survie pour le moins originaux et cela en conditions extrêmes. Et nous allons voir comment dans quelques instants, en compagnie de notre invité dans cette nouvelle émission Éclairage, Christian Dumas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste des plantes, membre de l'Académie des sciences, professeur émérite à l'École normale supérieure de Lyon. Ensemble, nous allons avoir droit à quelques exemples de processus de survie originaux. Vous nous parlerez du sabre d'argent, vous nous parlerez également du record de longévité d'un pin, vous nous en direz plus également. Et puis également, vous nous parlerez de la graine de palétuvier, c'est là pour donner quelques exemples. Auparavant, Christian Dumas, qu'est-ce que l'on appelle les conditions extrêmes pour les plantes ?
Alors, pour les plantes et pour les animaux, il y a une définition que j'aime bien qui est basée sur un principe physique. Imaginez un ressort accroché à un point fixe avec un crochet à l'autre extrémité. Donc, ce ressort, en position de repos, il a une certaine longueur. Vous appliquez un poids, vous pendez un poids à l'extrémité libre de ce ressort. Imaginez que ce poids corresponde à un stress. Et effectivement, c'est un stress physique. Ce poids va entraîner l'allongement du ressort. Si vous enlevez le poids, vous enlevez le stress et dans la plupart des cas, le ressort va reprendre sa longueur initiale. Dans ce cas précis, on dit que le stress est réversible. Et biologiquement parlant, ce mécanisme de stress réversible, c'est quelque chose de très fréquent. Le deuxième cas de figure, c'est celui qui nous amène aux conditions extrêmes. C'est-à-dire lorsque vous augmentez la masse du poids que vous mettez à l'extrémité du ressort et que vous augmentez la durée d'application de cette force, c'est-à-dire vous laissez le poids pendant très longtemps. Si le poids est vraiment d'une masse très importante, lorsque vous allez l'enlever, si le ressort n'a pas cassé, cas extrême, mais si vous enlevez le poids, il y a deux cas de figure qui peuvent se produire. Le premier, enfin, dans tous les cas, le ressort ne va pas revenir à sa longueur initiale, donc vous allez avoir un résidu d'élasticité. Et ce résidu d'élasticité, soit il est létal, c'est-à-dire qu'en termes de biologie, l'organisme qui a subi ce stress, il va mourir, soit il va quand même survivre, et c'est ce qu'on appelle une accommodation pour ce qui est d'une durée de vie d'une espèce. Si le mécanisme a été sélectionné au cours de l'évolution, on parlera à ce moment-là d'adaptation.
Donc c'est le principe de l'évolution des espèces et le principe de sélection naturelle ?
Oui, si on peut dire que derrière tout ça, vous avez des mutations positives qui sont sélectionnées, qui vont permettre aux organismes vivants, comme les plantes, de résister à ces stress. Alors, c'est important de faire la différence entre plante et animal. Animal, anima, animé. La différence, c'est qu'il fait très chaud. Vous avez un animal, l'homme en faisant partie, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre à l'ombre, il aura moins chaud. La plante, elle est fixée par ses racines, donc elle ne va pas pouvoir s'échapper. Ce qui veut dire que, comme il y a des plantes de partout, elles ont colonisé tous les milieux, etc., elles ont, au cours de l'évolution, développé et acquis des mécanismes particuliers de résistance au stress extrême.
Et stress extrême, par exemple stress hydrique, on va y venir dans quelques instants. Comment vous y êtes-vous intéressé, vous, Christian Dumas, à ces plantes qui vivent dans des conditions extrêmes ? Puisque en présentation de cette émission, je vous ai présenté comme biologiste des plantes et non pas botaniste. Comment vous y êtes-vous intéressé ?
Alors l'explication, elle est simple et elle est double à la fois. Elle est simple dans la mesure où mes activités de recherche ont toujours porté sur la reproduction des plantes. La reproduction, c'est l'interaction entre un partenaire mâle, chez la fleur, c'est le pollen, et un partenaire femelle, qui est, les cellules sexuelles sont localisées dans ce qu'on appelle le pistil, chez les fleurs. Et le pollen et les graines sont des organismes vivants adaptés à la survie. Parce qu'en fait, pour tout organisme, ce qui est important, c'est de protéger sa descendance. C'est de transmettre ses gènes et de protéger au maximum sa descendance. Eh bien, les plantes, par le biais du pollen d'une part et de la graine d'autre part, ont développer des mécanismes adaptatifs permettant la survie de l'espèce. Et les mécanismes sous-jacents, c'est la déshydratation. Pollen, c'est sec, c'est de poussière. Et la graine, très souvent, les graines sont très sèches. Donc, ça m'a amené à me plonger en tant que physiologiste, à comprendre les mécanismes et à chercher d'autres cas, et en particulier chez les plantes et chez les animaux, ou chez les bactéries, puisqu'il y a aussi les spores.
Alors, effectivement, vous parlez du pollen, peut-être intéressons-nous particulièrement à cette partie-là. Le pollen, par exemple, est-ce qu'il a une durée de vie très importante pour justement faire sa fonction de pollinisation?
Je vous répondrai oui et non. Il y a deux cas de figure, et pour les graines, c'est exactement pareil. Et la différence de longévité et d'aptitude à féconder dans le cadre du pollen ou d'aptitude à germer dans le cas des graines est étroitement liée à la teneur en eau des pollens et des graines. Et pour vous donner un exemple précis, j'ai beaucoup travaillé le maïs. La durée de vie d'un grain de pollen de maïs dans la nature, c'est à peu près 1 à 2 heures. Mais si vous avez un courant d'air sec et chaud, ce qui arrive fréquemment en été, hein, plantes d'été, eh bien, vous aurez une longévité qui sera réduite. Plus vous avez l'air qui va dessécher vite le grain de pollen, moins le grain de pollen restera apte à féconder longtemps. Et on connaît exactement la quantité d'eau en deçà de laquelle le pollen n'est plus apte à féconder. Et il y a un intermédiaire entre la quantité où il est encore apte à féconder, c'est-à-dire il est vivant mais plus apte à féconder, et puis la quantité où il est mort. Donc le pollen de maïs, c'est un pollen qui est hydraté, qui est dans les gammes élevées de teneur en eau pour un organisme de dissémination. À l'opposé, les arbres, peupliers, etc., donc j'en ai testé beaucoup, là, le pollen est très sec. Alors pour le maïs, c'est 60% d'eau à peu près. Pour le peuplier, c'est 8 à 10% d'eau. Et la plupart des espèces, c'est l'ordre de grandeur. Donc vous pouvez les stocker sans protection particulière dans le réfrigérateur et les utiliser longtemps après. Et vous pouvez avoir un pollen apte à féconder, ce qui n'est pas le cas chez le maïs.
Alors venons-en à ces conditions extrêmes. Parmi elles, on en parlait il y a quelques instants, le stress hydrique, autrement dit le manque d'eau. Comment des plantes arrivent-elles à survivre dans des zones arides, notamment dans les déserts par exemple, Christian Dumas?
Alors, les conditions naturelles de sécheresse, vous les avez dans 2 biotopes particuliers dans la nature. Les déserts, c'est ce à quoi on pense immédiatement. Mais sur un plan physiologique, vous avez la même chose en montagne. Et plus vous montez en montagne, plus le froid entraîne la déshydratation. Donc, il y a des mécanismes de conditions de survie à ces particularités de biotopes que l'on va trouver à la fois en montagne et à la fois dans les déserts. Donc je vais vous donner 2 ou 3 exemples, si vous voulez bien. Alors en montagne, il y a un exemple qui est tout à fait intéressant, qui a fait l'objet d'études pendant plusieurs années par des botanistes américains dans les rocheuses du Colorado. Donc vous avez au-delà de 3000 mètres des arbres que l'on trouve. Et parmi ces arbres, il y a les record men, toute catégorie de longévité chez les plantes. Plusieurs milliers d'années.
Donc qui non seulement résistent à un stress hydrique, mais en plus ont une durée de vie très longue.
Très très longue. Alors elles sont assujetties au froid et à des variations de température extrêmes entre la température du jour et la température de la nuit. Elles sont assujetties à résister à des conditions de vent, de glace, d'éboulis, etc. Donc vraiment, on peut dire que ce sont des conditions extrêmes aussi bien physiques que physiologiques. Et ces plantes ont une physiologie d'organismes en vie ralentie. C'est-à-dire que, par exemple, les conifères, sous nos latitudes et sous nos altitudes, on va dire, perdent leurs aiguilles tous les ans ou tous les 2 ans, 3 ans. Dans le Colorado, chez ces pins, taxus et compagnie, les aiguilles ont une longévité qui va jusqu'à 30 ans. Vous voyez tout de suite la différence. Et les cônes, qui renferment les graines sont disséminées et ont des mécanismes qui assurent la survie de ces espèces.
Donc elles ont une vie en hibernation en quelque sorte.
Oui, alors on sait que par exemple les troncs, des plantes qui ont 4000 ans par exemple, il y a des parties de troncs qui sont mortes et d'autres parties où des réserves sont stockées. C'est-à-dire qu'on minimise les dégâts, en fait les dommages mécaniques, la plante minimise les dommages mécaniques et va tenter d'optimiser par ces mécanismes de survie, même si ceux-là, on ne les connaît pas tout à fait bien, hein, ils n'ont pas été vraiment élucidés. Mais il y a des stratégies qui concernent finalement un mode de vie ralenti, on va dire, à l'échelle du temps. D'où la longévité extrême atteinte par ces plantes.
Et donc, ce sont des pins qui ont, comme vous le disiez, le record de longévité.
Absolument, absolument.
Ce ne sont pas les séquoias, ce sont ces pins pinus.
Oui.
Donc, on va quitter les montagnes du Colorado pour partir dans les îles Hawaï.
Oui.
Où là, il y a donc une espèce dont vous allez nous parler dans quelques instants, qui sont les sabres d'argent, qui sont des plantes emblématiques des îles Hawaï. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces plantes?
Alors, ces plantes, les îles Hawaï, ce sont cinq grosses îles qui sont sur ce qu'on appelle un point chaud et sont volcaniques et ont des altitudes qui peuvent aller jusqu'à 3-4 000 mètres d'altitude. Et bien, au-delà de 3 000 mètres, en particulier sur une des îles, l'île Maui, il y a le volcan Alaeakola, donc c'est un nom hawaïen compliqué, et on peut y accéder par la route, donc au-delà de 3 000, hein, facile. Et vous avez un sentier qui est bien balisé avec des gardes qui évitent que vous sortiez du sentier parce que ces plantes sont protégées. Vous avez ces plantes qui ont pour nom sabre d'argent parce qu'elles sont extrêmement... Donc c'est un petit bouquet de feuilles à la fois, on va dire, sphériques. Et les feuilles possèdent de tout petits poils qui sont des mécanismes qui limitent l'évaporation, qui réfléchissent la lumière, d'où cet aspect argenté. Et pourquoi sabre? C'est parce que ces plantes fleurissent au bout de 30, 50 ou plus d'années et émettent une ampe florale qui sort de cette touffe et de cette rosette, on va dire. Hein. Donc la forme en touffe, en rosette, c'est quelque chose qui est une adaptation convergente de toutes les plantes en montagne. Si vous faites de la montagne, et plus vous montez haut en montagne, plus les plantes poussent en touffe. Et la touffe, c'est une sphère, on va dire, ou une demi-sphère. Et la sphère, c'est le volume qui a la plus petite surface. Donc on comprend que par ce moyen géométrique, finalement, la plante va limiter les surfaces d'évaporation, donc les risques de déperdition d'eau. Et un cas tout à fait intéressant, par exemple dans les Alpes, chez nous, vous savez ce que c'est que les saules, qui sont ces arbustes que l'on trouve généralement au bord de l'eau, il y a des tas de saules. Eh bien, plus vous montez, vous allez arriver jusqu'à une certaine altitude, mettons 1800 mètres, où là, vous aurez des saules herbacées. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez que des feuilles qui sortent, ça fait un espèce de petit coussin rampant, mais à peine visible. Par contre, toute la partie souterraine, les racines, là, vous avez un tronc et des racines.
Qui ont besoin de beaucoup d'eau, d'ailleurs,
pour s'alimenter. Donc ça, c'est le mécanisme qui va limiter les déperditions en eau et va développer un système racinaire de façon à pomper sur une surface maximum.
Alors, je reviens à ces sabres d'argent. Donc, vous disiez une plante qui fleurit au bout de 40 à 50 ans.
Oui, mais ça, c'est pas...
C'est assez commun.
C'est assez commun. Je veux dire, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des plantes qui sont annuelles, où là, vous avez tout le cycle qui se fait en une année. Et puis, vous avez des plantes pérennes. Les arbres en sont un bel exemple. Un arbre ne fleurit pas au bout d'un an. Il va fleurir au bout d'un certain temps. C'est ce que j'appelle à mes étudiants la phase d'adolescence. Et il y a effectivement, comme chez les animaux, il y a tout un jeu de modifications, y compris hormonales, qui vont entraîner le développement des organes reproducteurs et finalement la maturité sexuelle.
Et ces sabres d'argent sont des plantes endémiques des îles Hawaï?
Absolument, on ne les trouve que là-bas. D'où la plante qui est symbole des îles Hawaï.
Alors, avançons, s'il vous voulez bien, il y a beaucoup d'autres plantes qui élaborent des processus de survie originaux. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'elles élaborent? Peut-être que vous me corrigerez, mais venons-en au désert. Quelles sont ces plantes qui survivent dans les déserts?
Alors, dans les déserts, la plante la plus emblématique, c'est ce qu'on appelle les plantes de la famille des cactées. Hein.
Bon, les cactus.
Qui sont des plantes typiques d'Amérique. Elles ont été introduites de partout, hein, mais ce sont des plantes qui sont originaires d'Amérique. Et elles se caractérisent par une tige qui est succulente et vous avez des feuilles qui sont transformées en épines. Donc, vous avez un stockage maximum d'eau sous forme d'eau sucrée, succulente. Hein, et puis, vous avez des déperditions réduites à leur plus simple expression, puisque les feuilles sont des épines. Et ailleurs, les échanges de gaz se font par des petits trous qu'on appelle des stomates. Eh bien, dans le cas des plantes dites grasses, mais les cactées sont relativement emblématiques à ce niveau-là, vous avez limitation du nombre de stomates sur la face inférieure, c'est-à-dire celle qui n'est pas exposée à la lumière. Et généralement, les feuilles se se recourbe de façon à limiter l'exposition des stomates. Et ça, c'est une adaptation qui est classique, que l'on retrouve chez toutes les plantes qui vivent en conditions xériques, c'est-à-dire en conditions de sec, de milieu sec.
Et pour les épines, on parle de feuilles alors ?
Oui, bien sûr. Les épines, ça peut être des rameaux, comme chez l'acacia, par exemple le robinier acacia ou les prunus. Ça peut être des feuilles chez les cactées, ou ça peut être simplement des poils, des formations épidermiques, comme chez le rosier, où avec le pouce, vous enlevez l'épine. Donc, sous l'angle épine, vous pouvez avoir des structures morphologiques très différentes et anatomiques très différentes.
Alors, venons-en peut-être aux mangroves, encore un système bien particulier, où là, je crois que c'est le palétuvier qui a développé un système original, Christian Dumas.
Oui, alors les mangroves, faut définir ce que c'est. Le terme de mangrove a une double racine, il y a man et grove. Et mangue, ça vient de Rhizophora menthol, c'est un terme indonésien. Et le grove, ça veut dire bois, forêt en anglais. Donc c'est la combinaison de deux mots, un mot indonésien, un mot anglais, qui résulte de la contraction d'une partie du nom d'espèce d'un palétuvier et de ce mot anglais qui signifie forêt. Et effectivement, ce sont des petites forêts d'arbustes, arbustifs, on va dire, pas de taille très très importante, qui vivent à la limite de balancement des marées. Et lorsque les marées se retirent, vous avez une zone qui est souvent vaseuse, et qui dit vase, dit milieu sans oxygène. Donc, on a là un exemple de plante capable de vivre dans un milieu sans oxygène, ce qui est une condition tout à fait extrême. L'oxygène est indispensable à la vie. Alors vous allez me dire, comment ça se passe pour vivre dans des milieux sans oxygène ? Eh bien, il y a plusieurs mécanismes qui sont relativement uniques à ces plantes qui s'additionnent. Le premier mécanisme, c'est la reproduction. La reproduction, elle se fait par graines. La reproduction sexuée se fait par graines, c'est-à-dire croisement, pollen et organes femelles, cellules femelles qui sont localisées dans le pistil. Eh bien, vous avez des fleurs sur ces arbres et vous avez pollinisation, fécondation. En général, les graines sont émises, c'est-à-dire qu'elles sont dispersées. Eh bien, pas chez les palétuviers. Chez les palétuviers, il y a de la viviparité, c'est-à-dire que l'embryon qui se trouve dans la graine va émettre une plantule sur la plante mère. Et cette plantule va croître, ça va fabriquer une grande lance, donc ça va s'allonger. Et lorsque la lance aura une certaine taille et un certain poids,
elle va tomber
et elle va se ficher dans la vase, permettant à la partie supérieure d'être en présence d'oxygène.
Avec la plantule déjà sortie.
Voilà. Et à partir de là, vous avez des racines aériennes, qui vont s'enchasser dans le sol, on parle de racines échasses, et sur ces racines, vous avez des zones où le passage d'oxygène est possible, le passage de l'air est possible, par des petits, on va dire, lenticelles, des petits trous qui assurent la communication. Donc là, vous avez un exemple tout à fait original. La viviparité, c'est quelque chose de rarissime, et ça, c'est un exemple absolument rarissime. On connaît d'autres exemples, mais ce sont des mutants, souvent, alors que là, c'est un mécanisme qui a permis à ces plantes de résister dans un environnement tout à fait extrême.
On va avancer, si vous voulez bien, Christian Dumas, parce qu'il y a encore un autre processus très intéressant, très important, qu'il faudrait aborder avant la fin de cette émission. Ce sont des plantes qui, alors, ne résistent pas au feu, elles, non, mais leurs graines, oui, et leur coque va s'ouvrir, justement, au contact d'une très forte chaleur. J'aimerais que vous nous en parliez avant de terminer cette émission.
Alors ça, ce sont des plantes dont je vais vous parler, qui sont rangées dans ce qu'on appelle les « fire trees », donc les arbres à feu. Alors il y a plein de plantes qui sont adaptées au feu, mais celles dont je vais vous parler, on les rencontre en Australie, où j'ai travaillé aussi un certain temps. Les feux en Australie ont la particularité de se déplacer rapidement. Et ces plantes qui sont des protéacées, des protées, forment de magnifiques inflorescences. On en trouve maintenant chez les fleuristes. Et lorsque la fécondation a eu lieu, donc chacune des fleurs, chaque fleur unité de l'inflorescence, donne un fruit. Ce fruit, c'est un follicule, et la particularité de ce follicule, c'est qu'il devient ligneux, très dur, comme du bois, c'est le cas de le dire. Et le fruit peut rester, donc qui renferme la graine, les graines, peut rester là pendant plusieurs années, jusqu'au passage du feu. Il faut le passage du feu, plusieurs minutes à 400 degrés, pour faire éclater les parties de ce cône qui renferment les graines. À ce moment-là, les graines sont à l'air libre. Et entre les graines du follicule, il y a une petite membrane. Et ça reste comme ça jusqu'à la pluie. Et il ne pleut pas souvent, des endroits, il pleut même rarement. Donc quand il pleut, la membrane va gonfler et va entraîner l'éjection des graines. Donc les graines vont tomber au sol au moment où il aura plu, c'est-à-dire propice à la germination. Et ce qu'on sait depuis peu de temps, c'est que la pluie lessive les produits de combustion, en particulier de combustion de la cellulose, qui est une des composantes des végétaux, de la paroi des végétaux. Et parmi les produits de dégradation par le feu de la cellulose, il y a une molécule qui a été identifiée, qu'on appelle le buténolide. Et on s'est aperçu qu'à quelques parties par million, c'est-à-dire vraiment des concentrations très très faibles, eh bien, cette molécule était un promoteur de germination. Autrement dit, le passage du feu libère les graines qui étaient protégées. Les graines attendent la pluie. Au moment où il pleut, elles tombent dans un milieu tout à fait favorable puisque l'humidité est nécessaire à la réhydratation des graines, donc à leur germination. Et en plus de ça, les lessivats des produits de combustion amènent un facteur chimique, qui assure, qui promeut la germination. Donc vous avez des conditions optimales.
Donc ça veut dire que quelque part, ce feu est nécessaire pour le développement de cette espèce.
Absolument. Mais là, c'est le résultat d'un processus évolutif, adaptation de ces espèces au feu.
Christian Dumas, on arrive à la fin de notre émission. Donc merci pour toutes ces explications passionnantes, ces exemples de plantes et ces processus de survie originaux. Quelles sont maintenant ces connaissances que nous avons sur ces mécanismes, Christian Dumas ?
Alors bien sûr, chaque espèce, chaque exemple que je vous ai donné n'a pas été élucidé au niveau des mécanismes, c'est-à-dire de l'approche mécanistique. Par contre, on a des systèmes modèles, aussi bien chez les animaux que chez les plantes, qui servent à élucider ces mécanismes. Et depuis, on va dire, une bonne trentaine d'années, cette discipline a fait des progrès relativement significatifs. Alors, quels sont les mécanismes impliqués ? Il y a des mécanismes cellulaires, de protection des membranes, de protection des protéines dans les cellules, identification de molécules capables de protéger finalement les membranes, comme il y a le cholestérol chez l'homme, hein, que tout le monde connaît, mais il y a d'autres composés comme la glycine bétaïne, la proline, les sucres, comme le saccharose. Ça, c'est à l'échelle cellulaire. Et puis, depuis quelques années, à l'échelle moléculaire, on commence à avoir un certain nombre d'indications grâce au séquençage du génome d'une plante modèle qui est la rabette des dames, l'Arabidopsis thaliana. Et une des particularités entre les plantes et les animaux, je vous ai dit, c'est que les plantes restent fixées au sol, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la possibilité de se déplacer en cas de stress. Ce qui explique que un des premiers résultats du séquençage du génome de la plante a montré par rapport à l'animal et à l'homme qu'il y avait plus de facteurs de transcription, c'est-à-dire de protéines capables de décoder des gènes. Et on sait que chez l'animal comme chez la plante, il y a des gènes qui codent pour des protéines de résistance au stress qu'on appelle les heat shock protéines, protéines de choc thermique, mais aussi bien froid que chaud et stress en général. Eh bien, le nombre de ces protéines dites HSP, pour heat shock protéines, est beaucoup plus important. Les familles sont beaucoup plus importantes chez les plantes. Et les mécanismes de contrôle sont aussi beaucoup plus importants chez les plantes que chez l'animal, ce qui explique que les plantes sont capables de résister dans des conditions de survie extrême, ce qui n'est pas le cas, ou rarement le cas chez l'animal.
Donc un système d'alerte et puis après de réponse, en fait.
Absolument.
Réponse
absolument.
Au stress. Merci Christian Dumas d'être venu nous rendre visite. Merci pour ces explications passionnantes. Et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission sur les orchidées. Merci à vous.